Vous écoutez On lit pour vous.
Incel 101. Une chronique de Vanessa Destinée parue le 23 juin 2026 dans Urbania. Suivez la guide. Montréal a été le théâtre d'un attentat misogyne et antiféministe. Encore. Je ne suis pas là pour parler du contexte sociopolitique qui a mené à ce triste événement. Vous le connaissez déjà, à moins de vivre sous une roche ou de vous boucher les oreilles quand des agences de renseignement, des universitaires, des militantes féministes, des victimes vous parlent des dangers entourant la mouvance masculiniste en Occident. C'est pas votre genre, hein? En tant que féministe intersectionnelle et personne formée en sciences sociales, ça fait longtemps que j'aborde ces enjeux, en criant souvent dans le vide, malheureusement. Maintenant, je suis fatigué et je me prépare tranquillement à passer le flambeau. Je m'en remets à la relève. Jouer et rejouer dans le mythe de Sisyphe ne m'intéresse plus. Si j'ai eu l'impression de prêcher dans le désert pendant toutes ces années, c'est parce que le problème est structurel. La peur, la pudeur et le manque de littératie au sein de la classe médiatique ralentissent le groupe sur une foule d'enjeux de société. Or, on n'a plus le luxe du temps en cette ère accélérationniste. Il est minuit et quart. Bienvenue dans le monde d'après. Je me souviens d'un cours optionnel de journalisme que j'avais suivi à l'université. Un cours du soir, dans ce qu'on appelait la faculté d'éducation permanente, avec une majorité d'étudiants dans la vingtaine avancée et plus. À l'époque, je faisais un certificat en communication et je me destinais plutôt aux relations publiques. J'avais choisi ce cours par curiosité, et pour avoir crédit et diplôme au plus crisp si on veut vraiment être honnête. Pendant une séance, le professeur nous propose un exercice classique des écoles de journalisme québécoises. Déterminer si oui ou non un média devrait publier la lettre laissée par Marc Lépine, auteur du massacre de Polytechnique en 1989. Au terme d'une grosse période de délibération en équipe, j'étais l'unique étudiante à avoir répondu que oui, il fallait la publier en raison de la portée politique de l'attaque. Mes collègues de classe, eux, considéraient qu'il s'agissait du délire d'un loup solitaire, d'un fou, d'un désaxé à qui il ne fallait surtout pas offrir une tribune. Je répète. Dans une classe remplie d'aspirants journalistes, j'étais la seule à soutenir qu'il s'agissait d'un crime politique. Je me souviens avoir affirmé que si Marc Lépine avait explicitement visé les personnes noires ou les personnes juives de la même manière qu'il avait visé les femmes et les féministes, la question ne se poserait même pas. Personne n'aurait suggéré que ses propos étaient sans importance ou qu'il fallait les ignorer sous prétexte qu'il provenait d'un malade mental. C'était en 2013. Je raconte cette anecdote non pas pour me donner le beau rôle, même si je reconnais qu'il y a peut-être une petite énergie « pick me » là-dedans. Désolé, je suis une victime de négligence parentale en rémission. Mais pour illustrer à quel point le déni, les biais inconscients et le manque de connaissances ont longtemps empêché les médias de comprendre et de relayer de manière rigoureuse certains phénomènes pourtant bien visibles et largement documentés depuis des décennies. Dans les salles de rédaction, dans les studios, sur les plateaux, on tentait de me dissuader de les aborder. Et on préférait souvent limiter les exemples aux États-Unis, comme si ces mêmes dynamiques ne pouvaient exister ici. Sans surprise, C'était le même manège chaque fois que je tentais de parler de racisme. Pendant des années, les médias ont été réticents à aborder ces sujets. Si bien que, lorsqu'on en parle, c'est souvent sur le ton de l'hypothèse, du doute, du scepticisme ou de l'incrédulité. Le tout en s'appuyant sur des euphémismes ou de fausses équivalences pour minimiser l'urgence de la situation. En s'obstinant à vouloir se montrer rassurant, les médias passent à côté de leur devoir d'information et méprisent involontairement l'intelligence du public. À force de manquer de repères pour nommer un phénomène, on finit par mal le faire. On se retrouve avec des manchettes qui affirment qu'un tueur était marxiste tout en oubliant de mentionner qu'il était aussi raciste. On confond les idéologies, les motivations et les mouvements auxquels ils se rattachent. Non! Ce n'est pas parce qu'un terroriste cite Marx qu'un attentat devient automatiquement un acte d'extrême-gauche, Patrick. Dans la majorité des corps de métier, on doit régulièrement se soumettre à des formations pour s'assurer que nos connaissances sont à jour. En journalisme, ces formations sont souvent offertes pour s'adapter aux différentes évolutions technologiques des dernières années. Mais il faut aller plus loin. Il faut des mises à niveau sur les enjeux de société, dispensées par des experts et basées sur la recherche scientifique. C'est essentiel pour que les journalistes, les recherchistes, les chroniqueurs et les animateurs, qui se revendiquent du quatrième pouvoir, comprennent les dynamiques qui façonnent déjà nos vies et qui détermineront le reste du siècle. Ce n'est pas un caprice, c'est la base de la déontologie. En attendant, pour remédier à ce déficit de littératie et au moins passer au travers de la semaine sans contribuer davantage à la confusion ambiante, je vous propose un sommaire des expressions les plus courantes dans les communautés incel. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Vous écoutez Incel 101, une chronique de Vanessa Destinée, parue le 23 juin 2026 dans Urbania. Lexique Incel 101. Avec la collaboration d'Océane Corbin, doctorante en communication, membre du chantier de recherche sur l'antiféminisme. Incel. Contraction des mots involontaires et célibataires. Désigne un homme qui se considère célibataire malgré lui, qui développe une profonde amertume par rapport à sa condition et cherche des boucs émissaires, habituellement les femmes et le féminisme, pour l'expliquer. Les incels croient généralement à l'existence d'une hiérarchie sociale où les hommes sont fortement discriminés par rapport aux femmes. Fait intéressant. Le mot « incel » a d'abord été inventé par une Canadienne quelque part à la fin des années 1990. Alana, elle a demandé à ce que son nom de famille soit tué, était une célibataire endurcie qui cherchait surtout à briser l'isolement et les tabous autour de la vie en solo. Elle espérait créer une communauté de gens avec qui échanger avant que son projet ne soit récupéré et détourné par des hommes frustrés sexuellement. Incel d'hommes désigne la culture regroupant des hommes qui se réunissent en ligne pour partager leurs frustrations quant à leur incapacité à trouver des partenaires amoureuses ou sexuelles. L'incel d'homme, qui se distingue par son ton victimaire, fait partie de la manosphère, un réseau de communautés virtuelles où se déploie la pensée misogyne et antiféministe, mais aussi raciste, xénophobe, homophobe, transphobe, putophobe, psychophobe et capacitiste. À noter que les frontières de la manosphère sont poreuses et qu'on y retrouve des éléments de la complosphère et de la fachosphère, d'où l'omniprésence de propos racistes, antisémites et de théories du complot, dont celle du pouvoir juif ou encore du grand remplacement. Selon Océane Corbin, le milieu académique parlerait actuellement de néo-manosphère pour qualifier cette mutation. Règle du 80-20. Théorie circulant dans la manosphère avançant que 80% des femmes se disputent 20% des hommes, soit la crème des mâles alpha, qu'ils appellent des tchads, condamnant ainsi la vaste majorité des hommes à 100 ans de solitude. Trousselle. L'incel sous sa forme la plus pure. Il s'agit d'une personne qui n'a jamais eu de contact romantique ou sexuel. Pas même un petit bec sec. Dans la culture toxique du inceldom, ce statut prestigieux est gage de toutes les indulgences. La violence des trousselles devient légitime et excusable. Plus la souffrance est grande, plus t'es un « real » et plus t'as le droit d'en vouloir à la terre entière. Femmecel, femme célibataire involontaire. Moins nombreuses, elles sont malgré tout bien présentes sur les forums d'incel. À noter que ce statut est généralement remis en question par les hommes incel qui considèrent que les femmes trouveront toujours quelqu'un avec qui coucher, car les femmes sont naturellement de viles tentatrices et la majorité des hommes désespérés. Volcel. Célibataire volontaire en rupture avec la pression sociétale d'être en couple. Souvent utilisé dans un contexte d'empouvoirment. Fakecel. Personne qui se prétend incel alors qu'elle a déjà eu des relations sexuelles ou amoureuses. Désigne aussi parfois les incels qui correspondent en partie aux critères de beauté eurocentrés selon Océane Corbin. Fémoïde ou phoïde, expression qui désigne les femmes. FHOS pour Female Humanoid Organism, autre expression qui désigne les femmes. Stacy, bimbo que tous les hommes désirent ardemment, mais qui demeure inaccessible pour la majorité d'entre eux. Évidemment, elle est presque exclusivement blanche. Becky, fille ordinaire, 6 sur 10, qui pourrait avoir la décence de consentir à des relations sexuelles avec les incels. Évidemment, elle est aussi blanche. Chad, voir la règle du 80-20. Retard cell, terme dérogatoire utilisé au sein de la communauté pour désigner un incel vivant avec une neurodivergence ou un trouble du développement. Illustre la violence de cette sous-culture qui carbure à l'autodépréciation et au capacitisme. Nigger cell, terme dérogatoire utilisé au sein de la communauté pour parler des incels afrodescendants qui sont considérés et qui se considèrent eux-mêmes comme socialement et intellectuellement inférieurs aux incels blancs. Dans l'inceldom, on conçoit toutefois que les femmes de toutes les ethnies fétichisent les attributs sexuels des hommes noirs et que ces derniers ont le potentiel d'avoir des relations sexuelles pour cette raison. Les individus ciblés par ce terme sont ainsi à la fois méprisés et enviés, illustrant les dynamiques profondément racistes et suprémacistes au sein de la culture incel. Il existe des variantes pour les différentes minorités culturelles telles que Ricel, Currycel ou encore Ethnicel, précise Océane Corbin. Rapecel. Incel qui fait la promotion du viol en invoquant l'ordre naturel des choses, soit la figure masculine dominante et la figure féminine dominée. Lookisme. Dans la culture incel, le lookisme renvoie à un déterminisme biologique calqué sur une vision déformée de la loi de l'évolution. Selon cette croyance, seuls les hommes favorisés génétiquement beauté du visage, grandeur, taille du sexe, ont le droit de s'accoupler, condamnant les autres à l'exclusion. Looks maxing, popularisé entre autres par l'influenceur masculiniste Clavicular, le looks maxing renvoie à l'optimisation de son apparence physique dans le but de déjouer la génétique et de s'élever dans la hiérarchie sociale pour rejoindre le bassin restreint du 20% des hommes les plus séduisants. Tous les moyens sont mis à profit. Troubles alimentaires, anorexie, boulimie, bigorexie, orthorexie, consommation de stéroïdes pour gagner en masse musculaire ou consommation de drogues dures pour la perte de poids, chirurgie esthétique, automutilation, se briser la mâchoire pour qu'elle devienne plus carrée, etc. Soy boy désigne les hommes progressistes se disant alliés des femmes et des féministes, des hommes sensibles ou les hommes efféminés. Association à la consommation de soya, tofu, lait végétal, etc., antithèse de la virilité, qui, elle, privilégie la viande. Simp désigne une personne, généralement un homme, qui manifeste une attention, une sympathie ou une dévotion excessive envers une autre personne, généralement une femme. Le simp se plie en quatre et s'abaisse pour des miettes d'attention, souvent dans l'espoir d'une romance ou d'une marque d'affection. No fap, no nut. Mouvement omniprésent dans la manosphère qui encourage les hommes à résister à l'appel de la masturbation et de la pornographie, deux habitudes perçues comme dégradantes. Le but est de reprendre le contrôle sur ses pulsions primaires pour se libérer d'une dépendance, soigner des troubles érectiles et ou décupler la testostérone liée à l'énergie masculine. Dans ce mouvement au relent complotiste, la pornographie est perçue comme une vaste entreprise malfaisante pensée spécifiquement pour affaiblir les hommes et les empêcher d'atteindre leur plein potentiel. Red Pill, référence directe au film The Matrix, c'est le premier jalon de la radicalisation. Dans la manosphère, avaler la pilule rouge signifie s'éveiller à la cruelle réalité du monde. Selon cette croyance, la société moderne ne serait pas un patriarcat, mais une gynocratie, un système dominé par les femmes, où les hommes sont manipulés, opprimés et désavantagés par les lois féministes. Cette façon de voir le monde a été consolidée par un documentaire du même nom consacré aux droits des hommes qui a fait beaucoup de vagues au sein de la manosphère lors de sa sortie en 2017. Brad Pitt, retour à un mode de vie traditionnel. Ce terme est très lié au mouvement des tradwives, de plus en plus populaire en ligne. Iron Pill renvoie au stoïcisme lorsque confronté à une société en pleine décadence. Synonyme de discipline et d'entraînement intensif, souvent en lien avec divers arts martiaux. Également lié au club de combat, en prévision de la guerre raciale supposément inévitable et imminente dont parlent certains masculinistes fréquentant les cercles d'extrême droite. Siège pile, synonyme de terrorisme, que certains incels perçoivent comme une fin plutôt que moyen. Black pill, état de résignation fataliste face à sa situation. Synonyme de grande détresse psychologique et d'urgence d'agir. Quand un incel passe en mode black pill, il n'y a que deux issues possibles. Le suicide ou la tuerie de masse pour se venger de la société qui l'a humilié. S'il choisit la tuerie, l'incel essaie généralement de mourir en martyr en faisant un maximum de victimes afin d'être érigé au panthéon des tueurs de masse aux côtés de figures telles que Mark Lépine ou Elliot Rodgers, surnommé le Gentleman Suprême et auteur de la tuerie d'Isla Vista en Californie en 2014. White Pill. État de résignation sereine par rapport à sa situation. Bien conscient de sa laideur et de sa solitude, Lindsay White-Pilled choisit de se concentrer sur son développement personnel et ses hobbies, abandonnant la poursuite de relations sexuelles ou amoureuses, mais pas la haine des femmes. Souvent lié au mouvement MGTOW, Men Going Their Own Way, une autre communauté effervescente au sein de la manosphère. C'était Incel 101, une chronique de Vanessa Destiné, parue le 23 juin 2026 dans Urbania.
Des ratons victimes de nos bacs de déchets et de compost. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 10 juillet 2026 dans Le Devoir. Année après année, des ratons laveurs demeurent coincés et meurent dans nos bacs de compost et de déchets trop accessibles à ces animaux en quête de nourriture. Le ministère de l'Environnement du Québec se dit conscient de la situation, mais ne détient aucune donnée sur son ampleur. Une citoyenne des Laurentides tente toutefois de sensibiliser le public à ce problème pour lequel il existe des solutions. En se promenant dans son quartier de Saint-Hippolyte, Patricia Hamel a constaté la présence d'un raton laveur incapable de sortir d'un des bacs roulants de grand format que chaque résidence possède pour déposer ses matières compostables et jeter les déchets que nous produisons toujours en très grande quantité. Depuis ce moment donc, depuis maintenant 3 ans, quand je me promène ou que je vais courir, je prends le temps de regarder dans les bacs. Je trouve des dizaines de ratons chaque année, explique-t-elle en entrevue au Devoir. En 2025, Madame Hamel dit ainsi avoir retrouvé pas moins d'une cinquantaine de ratons laveurs vivants coincés dans des bacs. Elle a aussi vu au moins une vingtaine de ces animaux morts. Comment se sont-ils retrouvés là ? Un raton ne peut habituellement pas grimper sur un bac en plastique de grande taille. Mais si celui-ci est appuyé contre un arbre, une clôture, un muret ou toute autre structure similaire, cet habile grimpeur peut y entrer, attiré d'abord par les odeurs. Il ne pourra cependant pas en sortir s'il se retrouve au fond du bac, d'autant plus s'il s'agit d'un animal de petite taille. De juillet à septembre, c'est l'enfer. Parce que les jeunes ratons de l'année commencent à se promener seuls. J'en trouve beaucoup, des vivants et des morts. Pendant les canicules, j'essaie aussi de me promener plus souvent pour les sortir avant qu'ils meurent, parce que les bacs deviennent un véritable four, explique Patricia Hamel. À quelques reprises en se promenant, elle a eu la chance de devancer d'à peine quelques instants le passage du camion qui ramasse le compost ou les déchets, et donc d'éviter à un raton laveur de se faire tuer. Depuis que Patricia Hamel partage des photos et des informations sur les réseaux sociaux, elle constate que ces cas d'animaux coincés semblent très fréquents et très répandus dans la province. C'est une situation qui existe partout au Québec. Des gens m'écrivent pour me décrire des situations similaires un peu partout, dans plusieurs municipalités. Une personne m'a même dit qu'elle avait trouvé 4 ratons dans un seul bac. En règle générale, cependant, les gens ne sont pas au courant du risque que représente leur bac, constate-t-elle. Quand je vais avertir des gens que j'ai retrouvé un raton dans leur bac en bordure de rue, le plus souvent, ils sont étonnés. Réduire les risques. Madame Hamel espère donc sensibiliser les citoyens aux risques que représentent les bacs roulants pour cette faune omnivore en quête de la nourriture qu'on met à leur disposition en jetant de grandes quantités d'aliments. Plus d'1 million de tonnes par année au Québec et en produisant près de 700 kilos de déchets par habitant chaque année. Malgré de nombreuses démarches, la citoyenne des Laurentides dit toutefois se heurter à une certaine indifférence de la part des autorités qui tardent, selon elle, à sensibiliser les citoyens aux gestes à poser pour éviter ces mortalités. Éloigner les bacs des éléments qui permettent aux ratons d'y entrer, utiliser des dispositifs qui permettent de maintenir le couvercle fermé, Certaines municipalités fournissent de tels mécanismes. Vérifier le bac au moment de le placer en bordure de rue pour la collecte, etc. Tous ces éléments de solution sont déjà bien connus, y compris au ministère de l'Environnement du Québec. Ce dernier suggère aussi de sortir les poubelles le matin même de la journée de collecte des ordures, plutôt que le soir précédent, puisque les animaux comme les ratons laveurs sont nocturnes, mais aussi de diminuer l'odeur en lavant régulièrement vos poubelles, de mettre du naphtalène, de la boulamite, dans le fond. Le ministère chargé des suivis sur l'état des populations fauniques du Québec ignore par ailleurs l'ampleur des mortalités imputables à nos bacs roulants. Nous n'avons aucune donnée sur le phénomène, mais sommes conscients que cette situation se produit parfois, indique le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, en réponse aux questions du Devoir. Le ministère précise qu'il n'offre pas de service pour libérer les animaux. Le cas échéant, la responsabilité revient au propriétaire. Dans le cadre de notre surveillance de la rage du raton laveur, il arrive que des animaux prisonniers de poubelles soient signalés par les citoyens. Cependant, un animal prisonnier et sain n'est pas d'intérêt pour notre surveillance, car les chances de détecter la rage sont très faibles chez un animal en santé. Nos équipes sont parfois appelées à se déplacer et constatent que l'animal est sain, mais prisonnier. Ils le relâchent alors sur place, ajoute-t-on dans la réponse fournie par courriel. La rage du raton laveur progresse au Québec. Le ministère de l'Environnement du Québec a annoncé cette semaine que les efforts de vaccination se poursuivent et que des municipalités ont été ajoutées à la zone de surveillance rehaussée de la rage du raton laveur qui progresse dans la province. Au cours des derniers mois, une progression marquée des cas a été observée en Montérégie, menaçant les municipalités de la couronne sud de Montréal et du centre du Québec. Le foyer de rage du raton laveur, présent dans le secteur de Stanstead en Estrie, s'est également étendu, atteignant le secteur de Magog, a fait valoir le ministère dans un communiqué. Dans certains secteurs de la Montérégie et de l'Estrie, la relocalisation d'animaux importuns pourrait avoir mené à l'importante progression de la rage du raton laveur observée depuis le printemps, ajoute le ministère. La relocalisation d'un animal jugé dérangeant est interdite sur le territoire de la majorité des municipalités de l'Estrie et de la Montérégie depuis juin 2025, rappelle ce dernier. C'était « Des ratons victimes de nos bacs de déchets et de compost », un texte d'Alexandre Shields, paru le 10 juillet 2026 dans Le Devoir.